remarquez qu'il y aura sur la question « qu'est-ce que quelqu'un de la classe moyenne? » On cherche encore, comme si c'était finalement très compliqué d'essayer d'encadrer ça. Quelqu'un de la classe moyenne, me semble qu'on est capable de l'expliquer. On va d'ailleurs le faire aujourd'hui avec certains de nos invités. Mais toujours est-il qu'on s'est dit, vous avez vu la volte-face du gouvernement, du ministre des Finances et de l'Économie, Nicolas Marceau, qui est revenu justement sur cette question de la rétroactivité en matière d'impôts. Il y avait eu cette annonce, cette possibilité qu'il y ait plus d'impôts payés et de façon rétroactive pour compenser cette fameuse taxe santé. Puis finalement, ben, c'est pas ce qui va arriver. Ce que Nicolas Marceau nous a expliqué la semaine dernière, mercredi dernier, c'est que finalement, on allait modifier la taxe santé. On n'allait pas l'abolir, contrairement à ce qui avait été dit en campagne électorale. On allait la modifier. Et donc, il y avait un moins grand trou que le fameux 1 milliard de prévu. Donc, moins d'argent pour compenser ce que coûte la modification à la taxe santé, mais quand même, faut aller en chercher. Comment ça va se faire? On va augmenter les taux d'imposition sur certains paliers pour certains contribuables. Résumé, grosso modo, finalement, ce que ça veut dire, c'est que la classe moyenne, on l'aura compris, va devoir payer un peu plus. Nous allons en parler avec des invités, je vais vous les présenter tout de suite, et la question qu'on va leur poser d'entrée de jeu, c'est est-ce que c'est hausse d'impôts? Parce que oui, il y aura hausse d'impôts, il y aura hausse de contributions, et ce sont les gens qui travaillent, qui font partie de la classe moyenne, qui vont devoir payer plus. Est-ce que ça risque pas d'inciter les travailleurs, vous, auditeurs, à travailler moins, finalement? On dit souvent que les hausses d'impôts, ça a un effet négatif, qu'on pense toujours aller chercher de l'argent, puis finalement, c'est jamais très payant, parce que dans le fond, plus d'impôts tue l'impôt. Cette phrase n'est pas de moi, elle est d'économiste bien connu, mais effectivement, il y a des gens qui sont partisans de ça et qui disent, on est capable de le prouver. Au fil des années, chaque fois qu'on a voulu augmenter l'impôt, ça a tué l'impôt. Je vous présente mes invités. Youri Chassin est économiste à l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup d'être là, Monsieur Chassin.
Bonjour.
Frédéric Proulx est président de Youville Communauté Créative. Il est étudiant à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Lui aussi, comme tout le monde, il veut payer moins d'impôts possible. Merci beaucoup, Frédéric Proulx, d'être là.
De rien, ça fait plaisir.
Je vais vous lancer cette question à tous les deux, en commençant par Frédéric Proulx. Est-ce que cette hausse d'impôts, ça risque d'inciter les gens à travailler moins, en commençant par vous, Frédéric? Vous êtes un entrepreneur, jeune entrepreneur, plein de talent. Vous avez
gentil.
Déjà eu plein d'entreprises quand même. Là.
Oui, ça va bien, mais nous, on va toujours être obligé de travailler plus, j'ai l'impression quand même, comme entrepreneur. On ne se définit pas par le temps qu'on y met, mais plutôt pourquoi on le fait. Mais ce qui est clair aussi, c'est au-delà de parler des gens qui y travaillent, il y a également les entrepreneurs qui, eux aussi, décident de où vont mettre leurs billes. Et ça, pour moi, c'est eux qui donnent le travail. Et on sait tous que la plus grande majorité des emplois sont créés par les petites entreprises ou les moyennes entreprises. Alors, pour moi, c'est tout ce qui plane un peu de morose et sombre dessus nous et qui fait en sorte que nos projets d'investissement peuvent nuire des fois à la création d'emplois ou même aux projets. Alors, c'est clair qu'on va peut-être faire travailler moins. Ce qui est pire que de juste dire « on va travailler moins ».
Effectivement. Vous dites c'est carrément les entrepreneurs qui risquent d'engager moins et de devoir faire travailler moins, ou peut-être finalement pas ici, mais peut-être à côté chez le voisin ontarien ou le voisin du dessous, là, les États-Unis.
Ben je pense que c'est une mince ligne, mais il reste que la perception, c'est souvent la réalité, malheureusement.
Ouais.
Dès qu'on a un cercle fermé, dès qu'on se parle un peu entre nous, ça vient tout de suite très clair qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Où on va prendre un petit projet de 50 000 $ à gauche et à droite, mais c'est peut-être 6 emplois, ça, pendant 3 mois, pendant 4 mois, ou un essai-erreur. Ça tue un peu l'innovation aussi, selon moi.
Ouais. Youri Chassin, vous dites, c'est sûr qu'il y a toujours un impact négatif quand on augmente les impôts. Le fameux plus d'impôts tue d'impôts, c'est vrai ça? Enfin, dans votre...
Absolument. Il y a une logique économique imparable. En fait, pour les hauts revenus, et c'est ce dont on parle, donc par exemple les 100 000 et plus, c'est des gens qui sont sensibles effectivement au taux d'impôts payés et qui sont en fait très en demande en général. Hein. C'est les hauts salariés, donc c'est parce qu'on leur demande, il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de possibilités pour eux. Alors évidemment, étant donné qu'ils sont en demande, ils sont aussi très mobiles et c'est là où est la difficulté. C'est des gens qui travaillent très fort en moyenne aussi, plus de 50 heures par semaine en majorité. Donc, c'est des gens qui mettent énormément d'énergie, qui ont souvent étudié pendant longtemps. Donc, les années où ils travaillent et où ils font un très grand salaire, c'est parce qu'ils ont choisi des domaines payants, c'est parce qu'ils ont investi dans leur éducation et qu'ils mettent beaucoup d'heures. Et ils sont sensibles à la réalité de l'impôt, parce qu'effectivement, à un moment donné, on regarde, est-ce que je suis peut-être mieux de prendre une semaine de vacances de plus ou 2 semaines de vacances de plus plutôt que d'augmenter de salaire? Il y a des choix comme ça qui se font. Et puis, il y a évidemment cette, comment dire, logique imparable que si on taxe trop, si on dit, bon, à la fin, là, ma dernière heure travaillée, j'en reçois juste la moitié, 50%, ce qui devrait être le cas, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais vraiment la faire, cette heure supplémentaire? Fait que, évidemment qu'il y a cette question.
Et ça, c'est documenté. Vous êtes économiste. Il y en a toutes sortes d'études qui ont été faites là-dessus.
Absolument. Et en fait, même sur le cas québécois, il y en a qui ont été faites. Donc, une étude de l'Institut CDAO qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la proposition originale, en fait, là, la première du Parti québécois, qui disait que, donc, incluant, par exemple, imposer davantage les gains en capital et sur les dividendes, ce qui a été abandonné depuis. Mais on cherchait à aller, on voulait en fait avoir 1 milliard de plus de revenus du côté du gouvernement du Québec. Et en fait, l'Institut CDA a calculé que ça ne donnerait que 317 millions. Donc, il y avait un manque à gagner important parce que justement, les gens allaient avoir une réaction à cette imposition.
Et leur réaction était quoi? Le 700 millions, il aurait été où? Exact. En théorie, là, parce que là, on est dans un modèle théorique quand même. Là.
Oui, non, mais en fait, c'est ça. C'est basé sur des études empiriques. On regarde comment les gens se comportent. Et donc, c'est des gens qui travaillent moins ou qui cherchent davantage peut-être à mettre de l'argent dans leur REER ou dans les échappatoires fiscaux légaux, voire peut-être illégaux. Et évidemment, il y a des gens qui peuvent toujours partir. Ça, c'est une possibilité, une réalité là, à l'ère de mondialisation.
Donc, ce avec quoi on va vivre, là, la nouvelle proposition de Nicolas Marceau. Évidemment, il y a le budget qui va passer. On pense que ça va être début décembre, ce fameux budget. Bon, il va falloir... Déjà, je ne sais pas où ça va aller, parce que sincèrement, moi, j'ai entendu dire, je ne sais pas ce que vous en avez entendu après, mais il me semble que la dernière fois que François Legault de la CAQ et que le chef intérimaire des libéraux, Fournier, a dit, s'est prononcé sur cette question, la dernière fois, il disait que les deux ils étaient en désaccord et qu'il allait voter contre. Fait que ça veut dire que soit on va avoir un renversement de gouvernement, va falloir encore que Nicolas Marceau refasse ses calculs.
Ben effectivement, il y a une joute politique en plus qui vient compliquer la chose, mais en fait, augmenter les impôts, même pour les 100 000 et plus, il faut savoir qu'au Québec, on a déjà un fardeau fiscal très lourd, en fait le plus lourd des provinces canadiennes, voire de l'Amérique du Nord. Donc, c'est clair que il y a une réaction de la part des partis d'opposition de dire « on ne peut pas voter » pour une hausse d'impôts. Alors, le Parti québécois qui veut aller chercher des nouveaux revenus est un peu pris dans un cul-de-sac.
Et quand vous parlez du fait, c'est vrai qu'on le dit souvent, qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord, et à chaque fois, on se dit, ma foi, est-ce que c'est... On veut en avoir la certitude, juste pour voir vraiment... C'est comme une espèce de réaction masochiste. On se dit, mais est-ce possible que ça nous fasse aussi mal que ça? Mais c'est vrai, il y a la fameuse règle des 60. Il y a 60 États et provinces en Amérique du Nord. On est vraiment les 60e sur 60?
Ben environ. Évidemment, il y a différents facteurs à considérer dans la fiscalité, mais essentiellement, on va chercher, le gouvernement va chercher, dans le fond, une part très importante de l'économie dans les poches des citoyens. Et cette proportion-là, elle est la plus importante en Amérique du Nord. L'idée étant que c'est toujours basé sur des données qui datent un peu, donc il y a un décalage, c'est quelques années en retard toujours. Et par ailleurs, évidemment, je fais l'argument dans le fond des opposants qui vont dire, ben, on reçoit des services en échange des impôts qu'on paye. Le problème, c'est qu'évidemment, ces services-là, on les utilise entre autres parce qu'ils sont gratuits ou à très faible coût. On les utilise peut-être davantage que si on avait vraiment à payer le plein prix pour.
Exactement.
Donc, difficile à juger.
Et puis sur toute la question, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent là-dessus parce que notre sujet fait beaucoup réagir là, depuis vendredi dernier. Il y a beaucoup de gens qui se sont prononcés, entre autres, sur Facebook et qui disent... Il y a José, entre autres, qui dit, moi, qui étais une travailleuse, disons, de la classe moyenne, je suis retraitée maintenant, j'ai profité de l'assurance chômage, la CSST, des soins médicaux, des médecins, des spécialistes, de l'assurance auto, des hôpitaux, des écoles, des cégeps. Presque tous ces services m'ont été offerts gratuitement parce que je payais mes impôts. J'ai une sœur aux États-Unis, elle est américaine, disons qu'elle trouve qu'on en a pas mal pour notre argent. Il y a Claude qui dit « L'argent se trouve dans une restructuration étatique. Il faut que ça passe par là, par des réformes fiscales, dans les luttes aux paradis fiscaux, à la corruption. Tu n'as plus la légitimité d'augmenter le fardeau fiscal des contribuables aujourd'hui devant une telle pagaille. » Et ça, c'est un peu le sentiment général. Si vous voulez bien, on va s'arrêter ici. Très courte pause.